Écologie, biodiversité, agriculture biologique. Environnement, zéro déchet, développement durable. Vous souhaitez communiquer et partager vos actions, parler de vos projets sur l'antenne de Radio Alpe Mancel 106.3 FM.
Juste pour que ça dure.
Mon Bio Écomag vous informe sur différentes initiatives et expériences en faveur de l'environnement et du développement durable sur notre territoire.
Juste pour que ça dure.
Contactez le 02 43 33 24 56, le 02 43 33 15 15,
juste pour que ça dure.
Écoutez Radio Alpe Mancel sur le 106.3 FM, votre radio associative en territoire Haute-Sarthe Alpe Mancel. Consultez son site internet et rejoignez-nous sur la page Facebook de Radio Alpe Mancel. À présent, nous avons le plaisir de recevoir sur l'antenne de Radio Alpe Mancel 106.3 FM, monsieur Mention Dominique, qui est, si je puis le dire, le spécialiste français des trognes, ces âmes qui tiennent une grande place dans nos campagnes. Monsieur Mention, bonjour.
Bonjour.
Alors, avant de parler de ces arbres bien particuliers, parlez-nous un peu de votre parcours plutôt bien rempli.
Écoutez, mon parcours, il commence au pied des trognes, quelque part, puisque je suis né dans une petite ferme dans le Perche vendômois. Mes parents étaient des petits polyculteurs éleveurs, et sur la ferme, il y avait des haies avec des trognes, dans lesquelles, tout gamin, j'ai grimpé, et probablement aussi que la forme de ces arbres m'a influencé dans mon parcours ensuite d'artiste, puisque quand j'ai eu l'âge, je suis rentré à l'école des Beaux-Arts de Tours. Au cours de ces études, je me suis rendu compte que la forme de ces arbres avait été présente dans mon vocabulaire artistique, aussi bien dans le dessin, la peinture que la sculpture que je pratique à nouveau depuis quelques années.
Auteur, dessinateur, sculpteur, vous possédez donc de nombreuses casquettes. Une suite logique dans ce parcours ?
Mais quelque part, oui, parce que quand j'étais au lycée, la professeure de dessin s'était rendu compte que j'étais très à l'aise dans le dessin botanique. Et il se trouve qu'au Beaux-Arts aussi, on avait des cours d'études documentaires. La professeure avait également remarqué cette aptitude. Et il s'est trouvé que par la suite, après être passé comme styliste dans l'automobile, comme animateur en ZUP dans la ville de Blois, eh bien, j'ai été amené à réaliser tous les dessins de la flore forestière française pour le ministère de l'Agriculture, et qui sont toujours édités par l'Institut pour le développement forestier. Et j'ai fait ces dessins botaniques qui ont pris quand même 10 ans de ma vie en allant dessiner à travers toute la France.
Donc vous êtes auteur de nombreux ouvrages, tous liés à la nature. Mais pourquoi cet attrait pour la nature ?
Mais je crois que ça vient probablement de l'enfance et de mes parents. J'avais des parents très, je dirais, très, très, très près de la nature, avec un père qui avait un potager extraordinaire, qui greffait, qui plantait des arbres déjà. Enfin, je pense que c'est vraiment lié à cette histoire. Et puis, c'est passé aussi une chose, c'est que l'évolution de ce bocage dans les années 70, moi, m'a beaucoup marqué, puisque c'était un peu mon paradis d'enfance au sein duquel j'allais me promener dans les chemins creux, notamment avec mon frère qui était le plus proche. Et de voir ce paysage évoluer brutalement a été pour moi, en même temps qu'une prise de conscience, aussi la volonté d'agir quelque part. Et ça s'est concrétisé par deux associations. La première en 1980, ça remonte déjà à quelques années, Perche Nature, pour laquelle j'ai réalisé bénévolement une exposition qui s'appelait « Le bocage, ses rôles, son avenir ». Et c'est une exposition qui a tourné pendant 20 ans en France et qui a même été présentée au ministère de l'Environnement. Suite à Perche Nature, sur mon village de Boursey, j'ai proposé, notamment avec la réalisation des dessins de la flore forestière, de faire un parcours botanique pour reconnaître les arbres et les arbustes poussant dans nos haies, dans nos chemins, me rendant compte que beaucoup de gens ne connaissaient pas, étaient même pas capables de reconnaître un chêne d'un charme, par exemple, pour faire court. Et l'idée a été de faire ce chemin botanique dans le prolongement duquel j'avais le projet d'une maison botanique pour transmettre les savoirs et les savoir-faire de nos paysans, de nos ruraux, non pas dans un esprit de nostalgie, mais de se dire que ces savoir-faire avaient peut-être des choses à nous apprendre aujourd'hui dans la manière de nous comporter par rapport à notre environnement. Et c'est comme ça qu'est née en 2000 la maison botanique à Boursay, dans le village où j'habite. Et c'est aussi le lieu où va démarrer la grande histoire des trognes, quelque part.
Aujourd'hui, on va parler plus précisément d'un arbre emblématique dans nos campagnes, l'arbre trogne. Il ne s'agit pas ici d'une essence d'arbre en particulier, mais davantage d'un mode de coupe, si je ne me trompe pas.
Ah, complètement. Ces arbres qu'en Mayenne, on appelle des émousses, des ragoles, des souches. Donc, c'est en plus une particularité qui fait qu'on a donné des noms différents selon les régions. Mais c'est vraiment dans la manière de conduire un arbre, en fait, c'est une sorte de cueillette de l'arbre avec des cycles de taille réguliers que l'on pratique selon les usages, selon les régions, selon les bourgs ruraux, de manière cyclique. En général, autrefois, c'était tous les 9 ans. Mais ça peut être plus court et ça peut être plus long.
Et quels sont les intérêts de cette technique de coupe ?
L'intérêt de cette technique, c'est qu'on taille l'arbre à hauteur et donc on en conserve le tronc. Et ça, c'est important dans l'usage d'un arbre, dans l'exploitation quelque part d'un arbre. Au lieu de le couper au ras du sol et de le faire disparaître, avec la trogne, on conserve le tronc de l'arbre et on le met en plus, sa production est mise hors de portée de la dent du bétail. Parce que si vous taillez auprès du sol, comme dans un taillis forestier, et si vous avez des herbivores, que ce soit des chevreuils, des cerfs, des moutons, des vaches, eh bien toutes les repousses de l'arbre vont être systématiquement broutées par ce bétail, et l'arbre va finir par disparaître. Si bien que les paysans, en quelque part, ont inventé une forêt perchée hors d'atteinte de la dent du bétail. C'est comme ça qu'on peut aussi voir la trogne comme un arbre, comme une forêt paysanne, hors de portée de la dent du bétail, qui permet en même temps de cultiver et de faire de l'élevage. C'est-à-dire qu'avec la trogne, puisque la forêt est à hauteur, vous pouvez occuper le sol d'une manière différente.
Et à quoi servait le bois issu de cette coupe ?
Alors le bois, il y avait bien sûr de nombreuses fonctions. La fonction première étant autrefois le bois de fagot. Ça, c'était très important. On n'avait pas d'énergie avant les énergies fossiles. Il faut aussi se situer dans ces périodes plus anciennes pour se dire que le bois était la source principale d'énergie et le fagot étant quelque part l'unité de cette énergie pour les fours à pain, les fours à chaud, les fours à briques, les fours des potiers. Enfin, tous ces appareils qui consommaient d'énergie, la base en était le fagot et aussi la charbonnette, ce bois plus petit avec lequel, à l'origine, on faisait du charbon de bois, là encore, avant l'usage du charbon minéral arrivé par le chemin de fer. Et je dirais que c'est l'usage principal, hein, le bois énergie, qui continue toujours aujourd'hui. Il y a toujours des paysans qui font du bois bûche, et aujourd'hui, avec la modernisation, on peut aussi faire du bois plaquette pour les chaudières bois énergie dans les communes ou chez les particuliers, chez les agriculteurs. Donc ça, c'est très important. Et je dirais que ça fait partie d'une énergie qu'on a à proximité et qui ne dépend pas des apports extérieurs. On voit tous les problèmes que ça peut poser aujourd'hui avec la crise, le drame de la guerre en Ukraine. Eh bien, on voit qu'avec le bois, on a des capacités d'autonomie, notamment au niveau des campagnes.
Donc aujourd'hui, cette technique de coupe se perd un petit peu, malheureusement. Une raison particulière peut-être à cela, selon vous ?
Alors, ça se perd comme se perd le bocage, c'est-à-dire que on est dans des systèmes basés sur l'énergie, hein, de l'énergie fossile, et donc tout ça, ça fait qu'avec la mécanisation, l'agrandissement des parcelles, le manque de main-d'œuvre aussi dans les campagnes, fait que ben l'arbre, on l'a vu comme un élément gênant du paysage. Et on est dans un processus d'accélération où on a supprimé les arbres de manière exagérée. Il y avait nécessité d'agrandir des parcelles, hein, bien sûr, pour pouvoir mécaniser et rationaliser plus l'agriculture. Mais on est allé dans des excès dont on se rend compte de l'importance avec sa disparition. On voit les problèmes d'érosion dans certaines régions, on voit les problèmes de vent aussi, les problèmes de bâtiments qui sont moins protégés, le bétail qui se retrouve en plein vent ou en plein soleil, c'est une vraie problématique. Enfin, il y a plein d'intérêts des arbres qui sont aujourd'hui de plus en plus évidents, notamment avec les changements climatiques.
D'où le fait d'une prise de conscience de la part d'un certain nombre de personnes, qui on l'espère sera croissante, on va dire, et d'où le fait que certains agriculteurs souhaitent replanter notamment des haies bocagères.
Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai fait une intervention, c'était au mois de février, là, cette année, chez un agriculteur éleveur d'Or de la Mayenne. Et cet agriculteur replante des haies. Il a chez lui une chaudière bois déchiquetée. Il refait des treuils. Et en plus, il alimente la chaudière de l'école communale. Donc, c'est dire que dès l'instant que l'arbre retrouve un usage, ben, il y a tout intérêt à le replanter pour plein de raisons. Alors, il y a une autre raison aussi qui est en train de se développer à travers toute la France, qui a commencé dans le Limousin, c'est l'usage du bois déchiqueté comme litière pour le bétail, qui évite de faire appel à la paille, et les éleveurs souvent manquent de paille, d'ailleurs c'est pour eux un problème, si bien que le fait de pouvoir faire de la litière avec du copeau, notamment sur des cycles de taille qui sont pas trop longs, fait que tout d'un coup l'arbre, à ce niveau-là, retrouve aussi une fonction importante.
Donc une technique qui, malgré tout, a tout son sens actuellement, notamment avec les préoccupations environnementales que nous connaissons.
Ah oui, c'est d'autant plus vrai qu'il existe à l'échelon national un groupe national autour des trolls, et on a 40 personnes qui viennent, agriculteurs, éleveurs, chercheurs, scientifiques, particuliers, paysagistes, qui viennent pour justement voir tout l'intérêt et comment on peut remettre les trognes et recréer des trognes avec des productions diverses et variées. D'ailleurs, il n'y a pas que l'usage fagot, que l'usage du bois énergie et que l'usage fourrager, mais il y a plein d'autres usages qui font que la trogne aujourd'hui devient quelque part un arbre de la modernité, parce qu'un grand arbre qu'on laisse évoluer tout seul, c'est magnifique, hein, ça a toutes ses qualités, mais un arbre dont on peut recueillir régulièrement la production, tout d'un coup, ça présente aussi tout un intérêt, sachant que cet arbre en ville va apporter de l'ombre, dans l'élevage il va aussi apporter de l'ombre, mais en même temps il va produire ces matières dont on parlait tout à l'heure, et ça, pour l'avenir, c'est extrêmement important. C'est d'autant plus important qu'on peut recréer des trognes en quantité par milliers très rapidement, parce que créer une trogne, c'est un geste très simple, mais qui avait disparu de nos campagnes avec les évolutions dont on vient de parler aussi.
Et vous, est-ce pour toutes ces raisons que vous êtes un fervent défenseur de ces arbres trognes ?
Ah, complètement, parce que moi, quand j'ai lancé cette histoire de trogne avec le jardin que j'avais réalisé au Festival de Chaumont-sur-Loire en 1999 et 2000, j'imaginais pas à quel point ces arbres pouvaient retrouver de l'importance dans l'économie contemporaine. Et ça, j'en suis de plus en plus convaincu. Et tous les éleveurs, tous les agriculteurs qui remettent en place des trognes se rendent compte de la vitesse à laquelle l'arbre va produire. On a à une époque planté des haies en se disant on va faire du bois d'œuvre de qualité avec des merisiers, avec des chênes, mais on se rend compte que ce bois d'œuvre, c'est pas le paysan qui plante ses arbres et qui les entretient qui va en profiter. Alors qu'avec la trogne, l'agriculteur est sûr de pouvoir être lui-même le gagnant de cette production. Et ça me paraît très important. On n'est pas dans des spéculations sur un avenir lointain, mais sur des productions rapides et durables en plus.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe, le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre, auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant. D'avec ma femme, j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne. Valencelle-là, qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Tout à l'heure, vous nous parliez de durée par rapport à la coupe de ces arbres. À quoi se fie-t-on en fait pour cette coupe ?
Alors, on se fie d'ailleurs sur l'expérience qu'on peut voir d'arbres très anciens en trogne qu'on trouve dans les paysages. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'il faut des cycles réguliers pour que ces arbres continuent à vivre très longtemps, puisqu'en France, les plus vieux arbres de France sont probablement des trognes. Alors ça on n'en parle pas beaucoup, hein, on parle toujours d'arbres vénérables, mais on oublie souvent que ces arbres ont été des trognes et que c'est pour cette raison qu'ils sont très anciens. Parce que il se passe plusieurs phénomènes. D'abord, le fait de tailler régulièrement l'arbre, il va être moins sensible aux aléas climatiques, aux tempêtes, aux verglas, par exemple. Et en plus de ça, il va être capable de répondre beaucoup plus facilement aux besoins du houppier qui, si on le laisse grandir très haut, l'arbre, il va avoir des difficultés à alimenter les hauteurs de sa cime. C'est bien qu'avec la trogne, régulièrement, on rééquilibre la partie aérienne avec la partie souterraine. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles les trognes peuvent vivre plusieurs centaines d'années, voire plus de 1000 ans, comme j'en ai vu notamment en Angleterre avec une trogne dans le parc de Windsor qui était estimée par les Anglais à 1300 ans, une trogne de chêne.
Donc là, on parlait des avantages, on va dire, de la coupe pour l'être humain aujourd'hui, mais oui. Concernant la biodiversité.
Alors, l'intérêt aussi des trognes, c'est que le fait de conserver le tronc et son vieillissement va provoquer plusieurs, là encore, phénomènes aussi. On va voir déjà la complexité du tronc qui est intéressante pour tout un tas d'espèces. On a vu le troglodyte qui est capable de nicher dans des circonvolutions du tronc, notamment sur des charmes. Mais le caractère le plus, je dirais, le plus important par rapport à l'intérêt de ces arbres, c'est la production de cavités qui, elles aussi, vont évoluer dans le temps et qui vont, avec le terreau notamment, qui va se former au cœur de ces cavités, avec la décomposition du bois de cœur de l'arbre, puisqu'on sait que le bois de cœur de l'arbre, il n'a plus de fonction vitale pour l'arbre. Mais, alors évidemment, pour les menuisiers, pour les charpentiers, c'est une perte, mais pour la biodiversité, ça c'est important, parce que c'est là que vont pouvoir se reproduire, s'abriter ou se nourrir des espèces extrêmement rares et des espèces même qui sont protégées à l'échelle européenne. Il y en a une que beaucoup de gens ont entendu parler, c'est le pic-prune, ce coléoptère qui est en fait une relique des forêts primaires. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les trognes, probablement que cet insecte aurait disparu complètement de nos paysages. Et ce sont les trognes qui, quelque part, ont remplacé l'habitat disparu de ce pic-prune, de ce petit coléoptère qui a besoin d'une certaine masse de terreau pour que sa larve puisse se maintenir au cœur de ces arbres.
Et est-ce que cette technique de coupe s'applique à toutes les essences d'arbres ?
Alors, il y a des essences qui s'y prêtent mieux que d'autres, comme les chênes, les charmes, les érables, les tilleuls, le platane aussi en ville, hein, ou le marronnier. Il y a des essences urbaines qui fonctionnent très bien entre eux. Des essences qui s'y prêtent moins, ce seront plutôt les essences fruitières, comme les merisiers, les pêchers, les pruniers, parce qu'ils sont plus sensibles à certains champignons qui vont les fragiliser rapidement, alors que les essences précédentes, le fait qu'il y ait des champignons, c'est pas un problème, parce que le champignon participe à la vie à l'intérieur de l'arbre et décompose le bois mort. Et alors il y avait l'orme aussi à une époque, mais lui il a été touché par la graphiose, qui est un champignon microscopique qui a pratiquement éliminé tous les grands arbres en orme de France, mais l'orme est toujours présent. Et il existe même aujourd'hui des cultivars résistants comme l'orme de Lutèce qu'on peut aussi conduire en trogne et qui en plus sont des essences fourragères intéressantes. Donc des essences champêtres sont pratiquement toutes conductibles en trogne et certaines très très rapidement au niveau de la productivité, comme c'est le cas sur le chemin des trognes à Bourcey, où on a réalisé des trognes aujourd'hui plantées et créées des trognes il y a une quinzaine d'années, qu'on a déjà récolté plusieurs fois.
Et côté actualité, vous êtes présent lors de nombreux événements et manifestations, des dates peut-être à nous communiquer pour les semaines à venir ?
Moi, je vais intervenir, par exemple, dans le parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, en Normandie, début janvier. Au mois de décembre, il y a des interventions, des formations avec l'Association française d'agroforesterie qui vont avoir lieu au Pays Basque. Je sais plus trop encore, mais je sais plus parce qu'il y en a beaucoup. Enfin, toujours est-il qu'il y a des formations trognes qui sont éligibles pour les agriculteurs à un financement Vivea et qui ont lieu à travers toute la France. Et en général, on réalise ces formations avec un CIVAM, un groupement d'agriculteurs qui est intéressé pour me faire venir avec là une formation qui est d'une part une formation numérique qui permet à ceux qui viennent d'avoir déjà des notions de ce que sont les trognes et de leurs usages, de la pratique, et puis une formation sur le terrain, sur une journée, qui permet justement de créer des trognes, d'expliquer les possibilités autant au niveau mécanisation qu'au niveau des usages, et puis aussi de faire souvent des diagnostics sur les trognes anciennes, parce qu'un des drames avec les trognes qui ont été abandonnés, c'est comment les reprendre, et ça c'est un vrai problème qu'on rencontre un peu partout en France.
Avant de nous quitter, nous pouvons peut-être communiquer vos contacts et inviter nos auditeurs à se rapprocher de leur libraire afin de se procurer un exemplaire d'un de vos nombreux ouvrages.
Alors, le titre du livre, c'est « Les trognes, l'arbre paysan en mille usages » aux éditions Ouest-France. Et puis un tout récent, justement, qui lui prépare l'avenir, c'est un petit guide hein, qui coûte 10 euros, hein, qui est rapporté pratiquement, c'est presque un paquet de cigarettes, qui s'appelle « Le guide pratique des trognes » également aux éditions Ouest-France. Donc il y a ces deux livres qui sont une manière, à la fois avec le premier, de mieux connaître ce que sont les trognes d'une manière générale, avec une cartographie des trognes, des noms de trognes à travers le France, des usages, des essences concernées, et puis ce guide pratique ben, qui donne les clés justement pour à nouveau recréer des trognes et de voir qu'il y a plein d'usages qui sont possibles avec ces arbres, aussi bien d'ailleurs en ville que dans l'espace rural.
Est-ce que vous souhaitez communiquer un contact ?
Oui, ben moi on peut me contacter dominiquemension@orange.fr et en général je réponds pas toujours tout de suite parce que je suis pas toujours présent à la maison, mais je réponds aux personnes qui me sollicitent et je renvoie d'ailleurs aussi vers d'autres contacts parce qu'il y a de plus en plus aussi des lagueurs, de professionnels qui s'intéressent à ces arbres et c'est important que le savoir-faire se développe et soit transmis au plus près à la fois des particuliers, des agents d'espace vert, mais aussi, bien sûr, de tout le monde paysan intéressé.
Et de génération en génération.
Exactement, parce que ces arbres, ceux qu'on voit aujourd'hui qui sont très anciens, ben ils sont là parce que ce sont des générations de paysans qui les ont taillés régulièrement, et ça s'est perpétué parfois pendant des siècles.
Monsieur Mention, je vous remercie pour votre participation sur notre antenne, et je vous souhaite une agréable journée, ainsi qu'une bonne continuation.
Je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
À présent.